c'est jour de rentrée pour les sénateurs et les députés. À l'Assemblée, Richard Ferrand se prépare à monter sur le perchoir. Il affronte avant cela par vote 4 candidats de l'opposition. Zoom sur la stratégie du MoDem dans un instant. 20% des élèves français ont un bon niveau de langue étrangère au collège contre près de 80% chez les Suédois. Le ministre de l'Éducation veut y remédier. Un rapport et des pistes lui sont remis aujourd'hui. Le Parti populaire européen a du mal à faire le grand écart au Parlement à Strasbourg. Il regroupe des figures aussi diverses que Angela Merkel et Viktor Orban. Le Hongrois Orban, dont la politique est de plus en plus critiquée, vous l'entendrez. Et puis dans cette édition, nous dresserons le portrait de Jerry Brown, gouverneur de Californie. Il accueille aujourd'hui à San Francisco un sommet mondial sur le climat, sommet anti-Trump également. On saura cet après-midi quel sera le président de l'Assemblée nationale en cette rentrée parlementaire. Sans grande surprise, cela devrait être Richard Ferrand, adoubé par La République En Marche, qui compte 312 députés, largement majoritaire donc. Richard Ferrand aura face à lui 4 autres candidats au perchoir pour ce vote, de la France Insoumise, des socialistes, du Parti Les Républicains, et puis, depuis hier, un représentant du MoDem, pourtant allié de La République En Marche. Mac Fesneau a été désigné, Stéphane Robert.
La réunion des députés du groupe MoDem hier soir a duré plus de 3 heures. Chacun a pris la parole, notamment ceux qui, comme Jean-Louis Bourlange, estiment que La République En Marche n'a aucune considération pour le MoDem et ne le traite pas comme un partenaire. Mais le président de groupe est désormais candidat au perchoir. Mac Fesneau explique qu'il ne s'agit pas de se présenter contre Richard Ferrand ni d'essayer d'exprimer une quelconque frustration.
C'est pas la question d'exister, parce que je pense que nous existons depuis longtemps. Le centre est une force politique qui existe depuis longtemps. C'est l'occasion de proposer et de dire ce que nous pensons de l'institution Assemblée nationale. C'est comme ça que cette candidature est vécue. Ça a été un débat qui a été très serein, qui a duré très longtemps. Chacun a pu s'exprimer. C'était vraiment dans une ambiance qui était une ambiance de solidarité, une ambiance de responsabilité. Nous sommes dans la majorité présidentielle. La responsabilité qui est la nôtre, c'est que ça réussisse. Pour que ça réussisse, il faut qu'on puisse se mettre en situation de dialogue et d'élargissement de cette majorité.
Circuler donc, il n'y a rien à voir, il n'y aurait pas de dissidence au MoDem. On a quand même l'impression qu'un doute est en train de s'installer. Un doute dû au fait que le président de la République est confronté à des difficultés en cette rentrée politique. Qu'en réaction, il resserre les rangs de la majorité, notamment en plaçant des fidèles au poste stratégique. C'est le cas de Richard Ferrand qui sera élu au perchoir cet après-midi. Mais ce faisant, Emmanuel Macron donne aussi le sentiment de négliger ses alliés, ce qui instille le doute dans les esprits. Un doute qui commence également à s'installer dans l'esprit des Français, sur l'efficacité de sa politique et sur ses intentions. Et c'est sans doute ce qui entraîne aujourd'hui sa baisse de popularité dans les enquêtes d'opinion.
Emmanuel Macron qui compte donc sur cet allié à la présidence de l'Assemblée nationale. Mais ce poste prestigieux est-il un rouage essentiel à la vie politique? Oui, dit le constitutionnaliste Didier Mauss, mais un rouage seulement.
Regardez la période de François Hollande. Bon, Claude Bartolone, qui était président de l'Assemblée nationale, à certains moments a incontestablement joué un rôle politique, notamment par son expression, sur le fait peut-être qu'il fallait modifier un certain nombre d'orientations politiques. Bon, le résultat en fin de course a été une absence de modification de la ligne politique des gouvernements de François Hollande. En tout cas, il est très difficile de dire que le président de l'Assemblée a un rôle essentiel dans la détermination de la politique. Certes, bon, il peut être consulté par le président de la République, par le Premier ministre, il peut de lui-même faire connaître un certain nombre d'avis, mais il ne participe pas automatiquement aux réunions les plus décisionnelles à un moment ou à un autre.
Le constitutionnaliste Didier Mauss avec Maxime Tellier. Entretien en longueur à retrouver sur notre site franceculture.fr pour tout connaître sur les pouvoirs pas si super du président de l'Assemblée. Alexandre Benalla cède face à la pression du Sénat et de la loi. Il ira bien répondre aux questions de la commission d'enquête qui veut savoir quel rôle il jouait à l'Élysée. L'ancien conseiller est au cœur d'un scandale après avoir été filmé en train de frapper des manifestants le 1er mai dernier à Paris. Il est mis en examen. Alexandre Benalla ne voulait pas répondre aux sénateurs jusque-là, expliquant qu'il gardait tout pour les juges d'instruction. Comment mieux apprendre les langues vivantes à l'école? En la matière, la France fait figure de mauvais élève en Europe. Un rapport doit donc donner des pistes au ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Il sera remis ce matin. Rapport très attendu par Éric Charbonnier. Il est expert éducation à l'OCDE.
Le problème des langues étrangères en France, c'est que ça n'a pas été forcément une priorité pendant longtemps. On a une société qui est très axée sur les fondamentaux, compréhension de l'écrit, mathématiques, sciences, et on a délaissé les langues étrangères. Il y a peu de temps, on n'avait pas d'apprentissage de langues étrangères dans l'école élémentaire. Ça commençait au collège. Et puis dans certains pays, on a cette culture de langue étrangère qui rentre dès le plus jeune âge. Si vous allez en Finlande, vous verrez que tous les dessins animés sont sous-titrés en anglais. Donc c'est plus facile avec les très jeunes enfants d'apprendre les langues étrangères. Faut-il y donner plus d'importance et on attend beaucoup, nous, à l'OCDE, les recommandations qui vont être remises sur l'apprentissage des langues à l'école, parce que c'est quelque chose d'important. Il faut que nos enseignants aussi soient préparés à enseigner les langues étrangères. On demande beaucoup à nos enseignants d'école élémentaire. Ils doivent être bons en maths, en compréhension de l'écrit, parler des langues étrangères, faire du sport. Voilà, je crois qu'il faut aujourd'hui leur donner les formations suffisantes pour donner un enseignement de qualité, quelle que soit la matière.
Éric Charbonnier de l'Organisation de coopération et de développement économique avec Hakim Kasmi. Proscrire l'emprisonnement pour les très courtes peines. Voici une partie du plan présenté ce matin en Conseil des ministres pour réduire la surpopulation carcérale en France. A priori, la réduire de 8000 personnes. Ainsi, en dessous d'un mois, les peines d'emprisonnement seront interdites. Entre 1 et 6 mois, la peine s'exécutera dehors, par principe. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, ne fixe toutefois pas d'échéance précise. Le Parlement européen pourrait demander l'ouverture d'une procédure de sanctions contre la Russie aujourd'hui et reprocher à Budapest des manquements répétés aux valeurs fondamentales de l'Union européenne. Si la procédure, l'article 7, est menée à son terme, cela peut aller jusqu'à la suspension du droit de vote hongrois au Conseil européen, ainsi qu'à la privation de certaines aides. Hier à Strasbourg, le Premier ministre hongrois Viktor Orban a dénoncé un chantage, mais il divise jusque dans son groupe politique majoritaire le PPE, le Parti Populaire Européen, ravivant ainsi de nombreuses questions à Niavogel.
Comment ramener le gouvernement hongrois au respect des valeurs de l'Union, des valeurs chrétiennes, de solidarité et d'accueil, y compris des migrants? Ces questions divisent le Parti Populaire Européen depuis des années. Viktor Orban en est membre, les élus du Fidesz y siègent. Pour l'Allemande Ingeborg Gressle, présidente de la Commission du contrôle budgétaire, il faut désormais être ferme.
Il faut être très clair sur l'état de droit en Hongrie qui est menacé. Il faut donner un signal très clair contre la corruption et cette économie d'État qui est en train de se construire. Ce totalitarisme n'est pas en lien avec les valeurs européennes.
Ce n'est pourtant pas l'avis de Philippe Juvin, porte-parole de la délégation française du PPE.
Moi, je sais une chose, c'est qu'en Hongrie, le paysage politique n'est pas celui que nous connaissons en France. Vous avez M. Orban, qui est membre du PPE, et vous avez l'extrême droite. Cela signifie que si on pousse M. Orban en dehors du PPE, si on sanctionne la Hongrie, eh bien, on fait le lit de l'extrême droite en Hongrie. Moi, je ne veux pas.
Et pendant que les dirigeants du PPE appellent à la fermeté, les eurosceptiques, et notamment l'extrême droite autrichienne, tendent les bras à Viktor Orban.
Le Parlement européen qui votera donc aujourd'hui sur de possibles sanctions contre la Hongrie. Au Parlement aussi aujourd'hui, les députés se prononceront sur la réforme des droits d'auteur qui oppose artistes et éditeurs de presse aux géants du numérique et aux militants de la liberté sur Internet. Idlib ne doit pas être transformé en bain de sang. Voici l'appel du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui réclame à la Russie, à l'Iran et à la Turquie de tout faire pour protéger les civils en Syrie et dans la région d'Idlib plus particulièrement. Rencontre avec des Syriens et des Turcs à la frontière, ce sera dans le journal de 7h. Avant cela, zoom sur le grand sommet sur le climat qui s'ouvre aujourd'hui à San Francisco aux États-Unis. Il réunit des milliers d'experts, d'activistes, des élus locaux. Ce sommet est une réponse à Donald Trump et à son retrait des accords de Paris. L'événement est piloté par le gouverneur de Californie, Jerry Brown, un adversaire déclaré du président américain qui a fait de la protection de l'environnement son combat prioritaire, Loïc Piala.
En juin 2017, Jerry Brown fait le trajet jusqu'en Chine pour parler du réchauffement climatique avec le président Xi Jinping. La rencontre est exceptionnelle. Certes, Brown dirige l'équivalent de la 5e économie mondiale, mais il n'est pas un chef d'État, sauf qu'il est devenu par défaut le leader américain en matière de climat. Gouverneur de Californie dans les années 70, il a échoué à atteindre la Maison-Blanche et le Sénat la décennie suivante. C'est finalement en redevenant gouverneur en 2011 qu'il a pris une dimension nationale. Avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, il était déjà un avocat fervent de l'environnement. La longue sécheresse et les incendies gigantesques qui ont frappé son État ont achevé de le convaincre. Profitant d'une loi qui laisse à la Californie une marge de manœuvre en matière d'environnement, il a imposé à l'industrie automobile et au secteur de l'énergie des réglementations plus strictes que Washington. Mais même s'il vient de signer une loi interdisant de nouveaux forages au large des côtes californiennes, certains activistes le trouvent encore trop timide face à l'industrie pétrolière.
Loïc Piala en Californie pour France Culture. Et c'est sur la côte opposée, sur la côte est des États-Unis, que le climat pourrait faire beaucoup de dégâts ces prochains jours. L'ouragan Florence approche. Les pluies arrivent par les côtes de la Manche et de la mer du Nord en France aujourd'hui, par les Pyrénées aussi cet après-midi, qui pourrait tourner à l'orage en fin de journée. Partout ailleurs, le soleil va perdurer et les températures ce matin comptaient 17 degrés à Brest, 22 à Paris, 26 à Nice, 28 sur la Corse.